Monde. Après Belfast, c'est aujourd'hui Dubaï que France Culture vous propose d'arpenter, peu avant que ne se tiennent les 23 et 24 février, The Women's Forum for the Economy and Society. Aujourd'hui, Arnaud Contreras s'interroge ce qui pousse des femmes et hommes du monde entier à venir partager l'aventure de cette ville des Émirats Arabes Unis. Bon voyage sur France Culture Sans Frontières.
Le vol depuis Paris ne dure que quelques heures. Mais les noms des villes qui apparaissent sur l'écran de contrôle nous racontent des millénaires. Malte, Le Caire, Bagdad, Ispahan, Alep, puis soudain Dubaï. Sur les bords du golfe Persique, la jeune flèche veut pousser les nuages. Une nouvelle frontière, verticale, pas contre mais avec le désert. Qu'est-ce qui attire des femmes et des hommes du monde entier à venir participer à cette entreprise, aux Émirats Arabes Unis ? Vous connaissez certainement les images de voitures dorées à la feuille d'or, d'excentricité architecturale, de supermarchés du luxe. Elles existent, elles choquent ou émerveillent. Mais le vrai choc que nous décelons dans les yeux et les paroles des personnes que nous rencontrons est autre. C'est un choc de l'aventure, du jeu, de la mise sur Dubaï pour réaliser des projets qu'ils ne pourraient concevoir ailleurs. Single or double, triple, always.
Je m'appelle Elie Domit, je suis le directeur de la galerie East Wing, une galerie qui se spécialise en photo et on est basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.
Dubaï Ville Monde, d'autres frontières. Arnaud Contreras, Rafik Zenin. Pourquoi quand on est galeriste engagé, on s'installe à Dubaï ?
Bah, moi, ça fait en fait 19 ans que je suis à Dubaï. Je suis venu par hasard, c'était un accident. J'étais basé avant aux États-Unis, j'étais de voyage à Beyrouth et j'allais en fait travailler dans une boîte de publicitaire en Arabie Saoudite et ça n'a jamais été fait. Et donc, j'ai atterri à Dubaï pour prendre un autre poste aussi de directeur artistique dans une boîte publicitaire. Et puis après 5 ans de faire de la pub, bien sûr, c'était pas vraiment trop ce que je voulais faire. Et j'ai initié en fait l'idée de commencer une galerie d'art, spécialisant la galerie en photo. Et Dubaï, en fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, bien évidemment. En matière d'activité artistique, il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout, en matière de photos contemporaines, il n'y avait rien du tout. Et donc, on voulait en fait engager un grand public dans la photo. D'un côté, c'est bien sûr les spectateurs, les visiteurs. Et d'un autre côté, l'engagement avec des nouveaux collectionneurs qui s'intéresseraient aux photographes qui ne sont pas nécessairement de la région. Mais aussi, il y avait un côté, parce que Dubaï, c'est un phénomène assez particulier qui a intéressé beaucoup de photographes en Europe et aux États-Unis. Donc, que ça soit un travail comme celui de Cédric Delso, qui a fait la série qui s'appelle The Dark Lands avec les Star Wars, qui a été initié ici. Mais il y en a d'autres. Il y a Philippe Chancel qui a fait une grande série aussi sur les travailleurs. Il y a Jonas Bendixson qui a travaillé aussi sur la main d'œuvre. Et donc, il y a beaucoup. Enfin, on ne parle pas juste en matière d'architecture ou de nouvelles villes, mais d'autres sujets qui sont assez intéressants. Même maintenant, il y a des choses que, par exemple, qui ont été faites il y a 10 ans. Il y a un photographe allemand avec qui j'ai travaillé sur les premières constructions de la ville, où carrément le 2/3 des ce qu'on appelle les grues de construction, les 2/3 des grues mondiales étaient en fait concentrées sur Dubaï. Puis après 2008, c'était la grosse crise financière à cause de l'immobilier, ce qui a fait que en fait la construction s'est arrêtée, puis maintenant ça reprend de nouveau. Personnellement, ce que j'appelle un petit peu l'archéologie contemporaine, c'est-à-dire que les changements sont tellement immédiat que même étant habitant de la ville, on n'arrive plus à vraiment savoir ce qui était avant ou ce qui est après, parce que le changement est tellement immédiat, et ce qu'on voit pas vraiment beaucoup dans les grandes villes du monde aujourd'hui. Un pont qui va se construire pourrait prendre, je sais pas moi, 10 ans ou 12 ans dans certaines grandes villes. Ici, c'est carrément 6 mois et t'as tout un changement. Et c'est continu. Là, par exemple, ils se préparent pour la grande foire mondiale en 2020. Et c'est carrément, c'est toute une restructuration de la ville en architecture avec des, ils vont mettre des rivières, ils vont faire ça comme si c'était Venise. Donc tout est possible.
Vous travaillez avec des Dubaïotes, des photographes Dubaïotes?
Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle, enfin, Dubaïotes en matière que photographe Imarati ou des Émirats, il y en a quelques-uns. On n'a pas sur notre liste d'artistes pour l'instant des photographes qui sont engagés avec la galerie, qui sont de Dubaï, enfin qui sont des Émirats Arabes Unis. On les connaît quelques-uns, mais on n'a pas encore fait cette démarche-là par le fait qu'ils sont soit un peu jeunes, soit le programme il n'est pas assez développé, soit ils sont en cours de continuer, donc on les suit, et puis quand ils sont prêts, oui. Mais par contre, il y a d'autres photographes qui sont des expats, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est des photographes qui habitent là, qui travaillent pour les agences publicitaires, pour des clients privés, et qui, de leur côté, ont aussi leur pratique personnelle, artistique, qui se déroule autour d'une sorte de thématique qui est reliée à la ville. Mais donc, pour répondre bien à la question, c'est oui et un non. On ne les a pas vraiment, mais il y en a.
Stéphane Lagoutte, vous êtes photographe. On vous a suivi dans ce quartier, un petit peu derrière le décor. On voit tous ces bus autour d'une partie de Dubaï. Qu'est-ce qu'ils représentent dans la vie de Dubaï ?
A priori, ce sont les bus qui emmènent les travailleurs du BTP sur leur chantier et qui les récupèrent le soir et qui les ramènent ici dans ce quartier qu'ils ont a priori investi dans un entre-deux qui est préparatif à la destruction a priori de ce quartier. Tout comme un quartier qui existait un petit peu plus loin autrefois. Moi, j'y suis allé il y a un an dans cet autre quartier. Et quand on y repasse maintenant, c'est déjà complètement construit sur des kilomètres, des immeubles qui font entre 5 et 10 étages et qui sont déjà quasiment achevés maintenant. Donc ce quartier est un quartier qui, à mon sens, représente un peu ce qu'était la fin de Dubaï avant qu'il y ait toutes ces tours qui sont tout proches de nous, hein, qui sont à quoi, 500 mètres de nous. Et un quartier qui est finalement... à la fois un entre-deux entre un quartier plus animé qu'on verra un peu plus tard, un peu plus loin, et le quartier très business de ces tours-là. Quoi.
Alors en face de nous, on a en effet des gratte-ciels qui font des dizaines de mètres de haut, et derrière vous, il y a une maison qui fait à peine 3 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que cette maison ?
Alors moi, je ne saurais pas dire exactement quelle est son histoire, mais d'après ce qu'on m'a dit quand j'ai posé quelques questions aux nouveaux habitants, c'était les maisons des Émiratis avant, qui ont été relogés maintenant dans d'autres quartiers en attendant la destruction. Alors là, voilà, cette maison n'a pas été investie, ou l'a été à un moment donné, elle ne l'est plus.
On voit une maison abandonnée avec des habits, encore des meubles, des bouts de meubles.
Oui, on sent qu'elle a été richement habitée dernièrement et qu'il ne reste plus grand-chose.
Alors, vous êtes un peu une anomalie dans le paysage, à savoir vous marchez dans Dubaï.
Ouais, alors ça c'était un peu mon idée de départ, c'est comment déjà aussi prendre du recul par rapport à ces tours, parce que moi je me pointe juste avec un Leica, un 35 mm, donc avec le strict minimum pour se promener tranquillement dans un pays où il fait quand même chaud très souvent. Et donc ma problématique était aussi de prendre du recul par rapport à ces tours et de voir ce qu'il y a derrière le décor, en imaginant dès le départ qu'il y aurait probablement une forme de contraste entre ces tours et ce qu'on trouverait derrière.
Qu'est-ce que ça représente marcher dans Dubaï ?
Beaucoup de sueur. En fait, Dubaï n'est pas prévu, n'est pas conçu pour marcher. Dubaï est conçu pour se déplacer soit en transport en commun, soit en taxi. Et marcher n'existe pas trop. Donc finalement, l'idée était de... Enfin, pour moi, ce que ça représente, c'est comment retrouver son individualité dans tout ça, en fait. Comment retrouver une part humaine et à l'échelle humaine dans cette énormité. On croise des gens qui nous invitent à prendre le thé. On croise d'autres êtres humains comme nous qui sont finalement un petit peu étonnés de nous voir tout d'abord et qui finalement assez vite, si on leur fait un sourire, si on commence à engager la conversation, nous invitent à partager un petit moment avec eux. De temps en temps, on croise un groupe qui joue au cricket et du coup, je fais quelques photos et ça les amuse encore plus. Voilà, c'est assez simple finalement le rapport que j'ai trouvé dans ces quartiers-là.
Quand on parle des gens qui vous accueillent pour prendre le thé ou pour discuter, c'est aussi bien des Émiratis que des Indiens, des Pakistanais, des Philippins résidant à Dubaï.
Ouais, c'est arrivé pour les deux, effectivement. J'ai été invité par des Afghans, donc plutôt des travailleurs, sur leur toit entouré de paraboles, et où ils étaient là en train de boire le thé et se demandaient ce que je faisais là. Donc du coup, j'étais monté les voir et on a partagé ce thé. Et c'est arrivé aussi sur la plage à Jumeirah, donc des quartiers plus résidentiels, avec des Émiratis. C'était un jeudi soir. Ils avaient leur natte posée sur la plage, en fait, juste devant leur maison, la maison de l'un d'eux. Ils m'ont dit que ça faisait 30 ans qu'ils venaient, qu'ils avaient l'habitude le jeudi soir de prendre le thé entre eux. Ils m'ont aussi invité à m'asseoir, à prendre des viennoiseries et le thé avec eux, sympathiquement, quoi.
Alors, on vous suit vers ce quartier, comment est-ce qu'il s'appelle ?
C'est le début de sa toit, en fait, ou la fin de sa toit, avant les immeubles de World Trade Center de Dubaï.
Kajaki, 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 Kajaki,
Satwa, c'est un quartier indien, enfin, majorité indienne, en fait.
On voit pas beaucoup de monde à cette heure de la journée.
Non, là, on est avant les retours des ouvriers, donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu vide. Et ils viennent en général sans leurs femmes et sans leur famille, donc là, ils sont au travail, a priori. Mais on voit en face, là, il y a une mosquée, on voit quelques personnes qui sont devant et une petite épicerie. Alors c'est l'intérêt aussi, c'est que sorti des grands malls du pays, y a toutes ces petites épiceries avec un petit peu tout dedans là. On peut aller voir ce qui s'y passe, qui sont assez vivantes en fait.
On marche dans le sable, c'est le cas pour tout ce qui est en dehors des quartiers ou autour des buildings.
Oui, c'est assez fréquent. Après, on est souvent arrêté par des chantiers aussi quand on marche un peu à l'improviste comme ça. Donc c'est des chantiers où il y a aussi du sable, des routes à moitié faites. Mais bon, c'est quand même jalonné de routes malgré tout. C'est entre les routes qu'il y a du sable. Ouais.
Ah, c'est la première fois qu'on voit une rue et non pas un boulevard.
Oui, c'est à taille humaine en fait. C'est l'intérêt de se retrouver ici, c'est se rendre compte que voilà, il y a quand même des petits endroits comme ça avec des petites maisons, des gens qui se promènent et qui sont. Qui sont comme nous finalement.
On va dans quel sens?
Peu importe. Le quartier se ressemble un peu. Alors il n'est pas très très grand. Hein. On est vraiment entre deux quartiers, donc il y a peut-être. Il doit faire disons 1 km sur. Ou 2 km sur 1 km, quelque chose comme ça à peu près.
Donc voilà. Chaque quartier correspond à une communauté?
C'est souvent le cas, mais je pense que c'est un peu mélangé quand même. Ça, je ne saurais pas dire si, à quel point c'est mélangé ou pas, mais notamment, Satwa, il y a aussi beaucoup de Philippins là-bas. C'est plus après en question d'Émiratis, peut-être, qui sont plus aisés en général et qui sont plutôt dans les quartiers résidentiels. Et c'est vrai que ces quartiers-là, on est plutôt avec les Indiens, les Pakistanais, les Philippins.
On va traverser le quartier.
How are you?
I'm from Bangladesh.
Yeah.
Yeah. So, is radio for which country?
France.
France?
Yes.
Yeah, it's okay. But is Dubai is this old city? but look like it's nice. Maybe it's 1 month after it's broken, so new making there, this area. Yeah, so this is very, very old house because it's Dubai's local people living before, but now it's not living here. Satwa is very big. Yes. Satwa very big. The other site is new, but this site is very old. And because Emirati is rich man people, he doesn't live here. Yeah. So it's okay. I start work.
What's your name?
My name is Abdul Hashim. I'm from Bangladesh.
Thank you.
Les équipements sont prévus ici. Ils ont déjà tout installé pour tout raser et construire vers le haut.
Je sais pas. Ils sont encore très présents. En tout cas, ils habitent vraiment le quartier. L'autre quartier que j'avais vu du même acabit qui a fini détruit. Au moment où je l'ai vu, il y avait vraiment plus beaucoup d'habitants sur place. Donc là, apparemment, il y a encore un petit peu de temps à voir venir, mais ça tout peut aller très vite toujours. Hein.
Bonjour.
Hello.
Il y a des personnes qui travaillent pas comme ça en plein après-midi, en début de semaine. C'est quoi, c'est les patrons viennent les chercher au coin des rues ou...
Oui, il y en a qui m'ont dit qu'ils arrivaient à prendre un jour off de temps en temps. Et peut-être qu'ils ont des horaires décalés aussi. Ça, c'est possible aussi parce qu'il y a des chantiers la nuit aussi. Il y a différents types d'horaires.
D'un point de vue photographique, qu'est-ce qui est intéressant pour vous ici?
Bah, c'est de voir, vous voyez, là on a 5 personnes devant nous qui se promènent comme ça, en sortant d'une épicerie qui est attenante à une petite mosquée, et qui sont là en train de marcher, et ces grandes tours derrière qui représentent tout ce qu'on connaît de libéral ici et de modernité presque outrancière parfois. Quoi.
Et il y a pas mal d'arbres, à chaque coin de rue il y a des arbres, ce sont des arbres qui n'ont pas été plantés. À propos, comme dans toute la ville.
Oui, oui, c'est ce côté un peu hiératique qui est intéressant aussi, effectivement. La nature prend ses droits dans certains endroits, en dehors de ce qui est trop normalisé, normé. Quoi. Après, moi, ça me fait du bien aussi, personnellement, mais ça, c'est un point de vue personnel, de voir aussi des poubelles, un peu, de voir un petit peu tout ce qui fait que la vie, qu'on sent que la vie est là. Et qui est relativement... aplani dans ce qui est de la partie moderne de la ville. Voilà, et ce qui est agréable aussi, hein, finalement. C'est agréable de passer de l'un à l'autre, d'avoir les deux en même temps, d'avoir à la fois... tout est organisé dans cette ville moderne avec les tapis roulants quand le couloir devient un peu trop long, des toilettes à chaque station de métro, rien qui traîne par terre, et puis de pouvoir marcher dans le sable derrière et voir ces petites habitations, voir ces gens qui nous sourient quand on passe et auxquels on peut parler un peu quand on se comprend en dehors de l'ourdou.
Quand vous regardez et lisez des travaux de photographes émiratis, quel type de thème est-ce qu'ils abordent pour parler de leur environnement?
Ben, c'est récemment, j'ai vu une expo qui s'appelle Lest We Forget, qui en fait c'est un groupe de femmes majoritairement imaraties des universités de Zayed ou Abu Dhabi, et dans le contexte de créer un archive à partir des albums photos de famille. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, en fait, on peut voir que les gens, normalement, les sociétés imaraties, elles sont pas très ouvertes visuellement ou en matière de montrer leurs photos intimes ou leurs photos de famille, des albums de famille, qui est quelque chose de très personnel. Donc, cette initiative a été faite pour essayer de capturer, cataloguer, assembler tout ce qui a été en photo depuis les premiers appareils photo qui sont venus. Il y a d'autres photographes, par exemple, il y a un qui s'appelle Amar El Attar, qui en fait lui avait fait plusieurs projets, mais en particulier un qui je trouvais très très intéressant, c'était les intérieurs des mosquées, mais des petites mosquées qui sont cachés derrière une station de service, qui sont cachés dans les petites rues, et c'est même pas énorme, l'architecture elle est particulièrement différente, et lui ce qu'il a fait en fait c'est de photographier les intérieurs de ces mosquées que je trouvais intéressant.
Une galerie à Dubaï, c'est forcément 8 mètres ou 10 mètres sous plafond?
Les espaces à Dubaï, on a le luxe d'avoir ce genre de truc. Bon, c'est parce que les développeurs, quand ils construisent, c'est en fait, tout est grand.
Il y a combien de galeries de photos et de galeries d'art à Dubaï?
De galeries de photos, je dirais qu'il y en a 3 principalement. En tout et pour tout, je dirais qu'il y a plus de 90 galeries aux Émirats, ce qui est quand même pas mal. Bon, et chacune se spécialise plutôt dans certains types de travail. Il y a des galeries qui sont plutôt, par exemple, ils montrent que du travail d'artistes iraniens ou d'artistes syriens ou d'artistes libanais, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme ça. C'est assez étrange de le dire, mais c'est comme ça. D'avoir une galerie un petit peu plus à l'international, mais c'est plutôt des marchands d'art parce que c'est des grands acheteurs de je sais pas, des grandes œuvres de Dali, de Chagall, enfin les grands chiffres d'affaires, et leur but c'est d'attirer des grands acheteurs qui ont le pouvoir d'achat pour montrer des pièces comme ça. Donc c'est plutôt de montrer des pièces que créer des programmes. Et en tant que programme, il y a, je dirais, 4 ou 5 galeries vraiment qui sont sur la scène internationale, sur les grandes foires comme Art Basel, FIAC, Freeze, Paris Photo, et qui s'engagent dans ce discours. Mais bon, c'est comme ça partout un petit peu au monde, je dirais. C'est pas seulement Dubaï.
Les clients, les visiteurs émiratis, que ce soit des officiels ou bien des personnes de la société civile, hein, comment est-ce qu'ils réagissent à vos expositions?
Tout dépend de ce qu'on présente. C'est-à-dire, là, récemment, je viens de faire une expo il y a 3 jours. C'est un travail de Raymond Depardon, un grand photographe, et qui, en fait, lui, était passé par hasard en 1968. C'est un des premiers archives jamais vus de ce voyage-là. Et puis, bien sûr, on lui avait demandé, mais pourquoi vous êtes venu dans cette partie du monde si vous n'étiez pas dans le pétrole ou dans ce genre? C'était pas un reportage particulier. Ils étaient en Arabie Saoudite et ils voulaient passer ici parce que c'était sur la carte géographique à l'époque du monde. C'était écrit la côte des pirates. Et donc, c'était intéressant de voir ce que c'était. Et bien évidemment, quand on regarde ces images-là, qui sont en couleur et en noir et blanc, on n'a pas l'impression de ce que c'est aujourd'hui. Et en fait, c'est même pas 48 ans. Donc il y a 50 ans, c'est une transformation incroyable. Mais je trouvais que l'archive, quand même, était très important de le montrer. Et on a eu, par exemple, des gens des Émirats, le ministre de la Culture, qui, en fait, à un certain âge, il se rappelle très, très bien sûr, de ces jours-ci. Et les réactions étaient assez intéressantes et touchantes parce qu'ils avaient des anecdotes, ils reconnaissaient des gens dans les images. Et les Émirats, c'est relativement petit. Mais en tout et pour tout, on a quand même un challenge. On a, si vous voulez, une montagne à grimper parce que c'est un pays où on n'est pas les seuls, ça pourrait être New York ou Paris, c'est très diversifié. Mais c'est un endroit de transit. Il y a des gens qui peuvent passer 5 ans, 6 ans, 2 ans, mais c'est toujours un transit. Donc le moment que 2 ans passent, les mêmes gens que tu avais vus il y a 2 ans, c'est peut-être pas les mêmes. Donc c'est peut-être une bonne chose ou peut-être pas. Mais on s'adresse toujours à des différents types de nationalités et de différents publics. Donc ce qui pourrait intéresser un Imarati, c'est pas nécessairement ce qui pourrait intéresser un expat. L'exemple, une fois on avait fait une expo sur des photographes indiens contemporains, en pensant qu'il y a une diaspora d'indiens ou philippinos, pour le dire aussi, j'en ai fait une. Mais la réaction n'était pas du tout pareille. Donc, on était bien surpris qu'en fait, cette communauté-là n'était pas très intéressée parce que, je ne sais pas pourquoi, mais des photographes de l'Inde qui travaillent aussi. Et donc, pour nous, on disait que c'est assez important parce que ça pourrait parler à cette communauté-là. Mais en fait, c'était tout à fait le contraire.
La ville vibre, vit, mais on ne peut se retenir de songer à un décor de fiction. Pendant que l'on déjeune sur les berges d'une rivière artificielle, 10 ouvriers s'affairent à reconstituer un immense sapin. Ils insèrent dans une structure métallique les branches de l'arbre arrivé d'Autriche en pièces détachées. Sur la berge opposée, des techniciens préparent la venue de l'idole du Moyen-Orient, le chanteur palestinien Mohamed Assaf. Le Dubai International Film Festival bat son plein.
Moi, je m'appelle Antoine Khalif, je dirige la programmation arabe du Festival Tous les films arabes en compétition et en parallèle. C'est moi qui dirige cette section.
Quels thèmes sont abordés dans ce que vous recevez, dans les productions qu'on vous demande d'aider ?
C'est une très bonne question parce qu'au début, on était très surpris parce que la plupart des thèmes qu'on recevait, c'était des thèmes, de vieux thèmes, disons, des thèmes qui traitaient les années 70, des gens pauvres qui vivaient dans des maisons délaissées et tout cela. Puis on était vraiment surpris parce que quand on vient ici, disons, c'était un pays qui était déjà en plein progrès et tout ça. Et quand on y est, on se disait, mais les réalisateurs, ils prenaient des thèmes qui relatent un passé proche, mais quand même un passé avec des thèmes qui ne sont pas très liés à la réalité des choses. Et puis ça a beaucoup évolué. Ça, aujourd'hui, il y a de jeunes, par exemple, qui parlent beaucoup des problèmes qu'ils ont avec les émigrés, par exemple, surtout avec les Indiens, avec les communautés asiatiques et tout ça. Les problèmes sociaux commencent de plus en plus à dominer les scénarios. Par exemple, c'est la confrontation entre les gens d'ici et le comportement avec les étrangers, par exemple. Surtout avec les communautés indiennes et asiatiques, il y a eu des problèmes de communication et des choses comme ça. Ça revient beaucoup, beaucoup dans les courts-métrages.
Est-ce qu'il y a des thèmes un petit peu critiques sur Dubaï, sur le Qatar, sur des pays de la région ?
Il y en a, mais c'est pas très 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 évident. Il y a eu des films par exemple qui nous ont marqué l'année dernière qui parlaient beaucoup des Émiratiens qui ont une double nationalité, disons, bien que dont le père par exemple, dont la mère elle est étrangère et le père il est émiratien. Half Emirati, c'est ce qu'ils disent. Il y a eu pas mal il y a eu 2 ou 3 films qui ont été faits sur cela par des cinéastes, donc qui sont soit d'origine anglaise, parce que la mère elle est anglaise ou canadienne ou palestinienne, c'était très critique. Comment eux, ces gens sont perçus ici, parce qu'ils ne sont pas, dont les deux parents ne sont pas vraiment de la région ou émiratiens. Il y a eu cela, mais ça reste, non, c'est pas évident. La critique d'ici, de comment ça se passe, c'est pas très fréquent. Je vous dis, ils sont toujours dans des thèmes très poétiques. Moi qui travaille dans ce festival depuis pas mal d'années, je suis très fier parce qu'on a pu en fait familiariser le public avec des films qu'il n'aurait pas vus ici. Le festival est important culturellement. Bien sûr, il y a des films américains, il y a des films hollywoodiens, mais la section arabe, elle est très très riche. Et d'année en année, le public a progressé, a grandi. C'est-à-dire, s'est multiplié. On a beaucoup plus de spectateurs dans les salles qui viennent, par exemple, pour des documentaires arabes assez difficiles, avec des thèmes très très difficiles. On n'a pas peur de choisir des films dont les thèmes sont assez, je ne veux pas dire problématiques, mais qui sont importants pour la région.
Ça vous est arrivé de devoir retirer un film parce que vous le jugiez trop problématique avant même qu'il ne soit diffusé ?
On fait attention, bien évidemment, on fait attention. Quand on sélectionne les films, quand on est en processus de programmation, on fait attention à certaines choses délicates. Mais peut-être qu'on est le festival qui a montré le plus de films variés et différents. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on a montré un film qui s'appelle Beyrouth Hotel, un film de Daniel Arbid, qui n'a pas été montré au Liban, par exemple, parce qu'il a été interdit au Liban, alors il n'a pas été interdit ici. Nous, on fait beaucoup attention, par exemple, aux films qui critiquent la religion. Comment vous expliquer ? Ça veut dire qu'on ne peut pas montrer un film qui insulte une religion. On peut pas, si ça insulte le christianisme, ça insulte s'il y a des choses contre le judaïsme ou quelque chose contre l'islam, on ne peut pas. C'est quelque chose qui choque le public ici. Par rapport aux films où il y a des scènes sexuelles, ça va, ça passe. On a des films qui sont assez c'est assez parce qu'on censure pas en fait, soit on prend, soit on prend pas. Mais quand on décide de prendre un film, on le prend. On le montre tel qu'il est, on fait pas de censure ici.
Vous qui avez un regard à 360 sur la région, est-ce qu'il y a une différence de réalisation? Est-ce qu'il y a des différences d'écriture entre un réalisateur ou un scénariste d'Ubayot ou d'Abu Dhabi ou d'un autre pays de la région?
Ah oui, sans doute les réalisateurs, par exemple, quand vous prenez des scénarios, par exemple, qui vous arrivent de réalisateurs palestiniens, vous sentez que c'est très bien construit. C'est très très bien construit. Ici, il y a beaucoup de travail à faire et tout ça. Il reste beaucoup beaucoup de travail. Ça vient, c'est en train de se développer, Mais il y a peut-être parce que les coproducteurs viennent vers des scénaristes, par exemple libanais ou palestiniens, parce qu'ils sont habitués à cela, ou marocains par exemple, ou tunisiens, vu la relation qu'il y a entre l'Europe et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Liban et tout cela, plus qu'ici. Ce rapport est en train de se développer, et plus les gens sont confrontés à des coproducteurs européens, plus les scénarios sont mieux cadrés. Les personnages sont mieux construits et ils comprennent qu'il faudrait qu'ils sortent un tout petit peu du côté nostalgique. Il faudrait être ancré dans une certaine réalité et ne pas avoir peur. Donc oui, on sent la différence et eux, on sent comment eux, ils travaillent le scénario quand ils sont confrontés ou quand ils travaillent avec d'autres scénaristes venant de l'étranger. C'est ce qu'on essaie de faire parce que c'est important cela. Vous savez, beaucoup de cinéastes ici ne lisent pas. Ils connaissent pas la culture littéraire. Ils connaissent donc et parfois la culture cinématographique est limitée. Donc il faudrait nourrir tout cela. Quand ça manque, c'est grave pour un cinéaste. C'est ce qu'on essaie de faire parce qu'on leur dit ne lisez pas à l'étranger, mais lisez votre. Donc c'est ce qu'on essaie vraiment de faire depuis 5-6 ans maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a de la vie quotidienne ici dans ces quartiers qu'il n'y a pas dans le centre de Dubaï?
Je pense que ce qu'il n'y a pas, c'est que finalement c'est un endroit qui n'est pas normé, qui n'est pas prévu, où la vie s'installe sans que ça ait été prévu là où c'est. Dubaï, tout est très bien fait, les bords de plage sont très bien aménagés, tout est très bien fait, mais tout est très prévu finalement, très organisé. Ce qu'il n'y a pas pour moi, ce qu'il y a ici, qu'il n'y a pas là-bas, c'est cette improvisation de la vie en marge de l'organisation de l'architecture et des plans urbanistiques. Comme par exemple, juste là-bas, on a une maison avec... ils ont tiré une toile juste devant leur maison entre un arbre et la maison. Ils sont assis dessous et on trouve aussi des canapés et ils profitent de l'ombre faite par la toile et par l'arbre. Et on a aussi des canapés devant les maisons. Il y a certains endroits aussi où j'ai vu il y a un petit canapé plus un petit miroir à côté à l'extérieur de la maison. Donc où les gens finalement se retrouvent aussi pour se parler, pour passer un moment là. Donc ce qu'il n'y a pas pour moi, c'est ça, c'est toute cette vie qui ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas là-bas, c'est toute cette vie qui prend le dessus sur l'urbain, en quelque sorte.
Et quand vous photographiez, Stéphane, c'est avec un esprit d'archive du présent, de documenter cette vie-là?
Je pense que particulièrement dans ce genre de lieu, alors je travaille beaucoup aussi à Beyrouth, qui est une ville en mouvement perpétuel, je trouve que dans ces lieux, il y a un effacement du présent très direct en fait et qui va très vite effectivement. Donc ces photos historiques existent déjà au présent quasiment, et ce qui est assez touchant aussi quelque part.
Alors, ça fait une demi-heure qu'on déambule dans ce quartier, on a vu une femme. Où sont les femmes dans ce quartier?
Alors il doit bien y en avoir quelques-unes quand même, parce qu'on a vu des enfants notamment aussi. La plupart de des personnes qui vivent là actuellement sont des travailleurs migrants, donc ils viennent seuls pour quelques temps, quelques années, et donc ils viennent sans famille et pour envoyer l'argent qu'ils récupèrent au pays. Donc là, on est vraiment dans un entre-deux entre les tours et le Satois plus qu'on connaît plus en tout cas dans le à Dubaï, qui est un Satwa où il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de passages, beaucoup d'animations. Et donc, sur, en gros, je ne saurais pas trop combien il y a, mais il y a peut-être un petit kilomètre, 500 mètres, un kilomètre entre ces grandes tours et le Satwa où on va maintenant, qui sera plus bruyant et plus animé. Voilà.
Troisième vélo en 500 mètres.
J'aurais du mal à dire s'ils restent locaux, les vélos, dans ce quartier-là, ou s'ils vont plus loin avec. À mon avis, ça reste quand même des déplacements de proximité, plus ou moins. Mais il faut savoir qu'il y a, il y a la mer qui est à la fois pas très loin et loin. C'est-à-dire qu'à pied, on met bien un bon quart d'heure en marchant vite, voire 20 minutes. Finalement, ils sont dans un emplacement assez intéressant qui est entre la mer et la modernité, où ils peuvent trouver le métro... qui les emmènent sur leur lieu de travail aussi. Parfois, il y en a qui vont en métro pour ceux qui ont d'autres statuts que travailleurs du bâtiment. Et finalement, c'est un très bel emplacement, à condition, effectivement, là, pour le coup, en vélo, ça peut être très simple d'aller à la mer. Alors, ils font des pains afghans, des chapatis, tout ça aussi, ici. Il y a beaucoup de boulangeries comme ça. Un peu d'or déjà aussi.
Ah, c'est les premiers marchands d'or, ce qu'il n'y a absolument pas dans la ville moderne.
On est encore loin du souk de l'or.
Qui se situe où
Qui se situe à Dera, donc vraiment dans la vieille ville. Proche de la crique. Aussi. Ça sent l'encens un petit peu. Voilà le foisonnement des boutiques indiennes avec des miroirs, des couleurs, des fleurs partout.
Alors vous parlez d'odeur, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'odeur dans la ville moderne. Il y a toujours quelque chose d'assez neutre.
Oui. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est assez policé, tout est très propre. Et voilà, là on accède à de la chair en quelque sorte un petit peu.
On passe de la cuisine internationale à la cuisine nationale des communautés.
Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Vous voulez boire un thé justement?
Oui, pourquoi pas.
À midi, Dera se vide. Alors, le vent du désert a la voie libre. Il caracole en emportant les vêtements suspendus à des fils au-dessus des magasins. Robes d'enfant, chaussettes et slips partent en goguette, tournent le coin de la rue et s'égaient irrévocablement en chemin. Un après-midi, je ramasse un petit short égaré et je le dépose sur un portail. Le vent le soulève à nouveau et l'entraîne plus loin. Invariablement, mes pas me conduisent à la crique. Le port naturel où des bateaux de bois aux pompes peints en bleu flottent haut sur l'eau. Ils vont à Port-Soudan, à Mogadiscio, à Badan, des lieux que je ne connais que par les nouvelles alarmantes de la presse. Leurs mouvements sont eux aussi dictés par les taux du change. Si le rial iranien est plus fort que le dirham, les bateaux entrent en cortège dans le port et s'amarrent à trois de front le long du quai. Dans ces moments-là, les marchands autour de la crique font des affaires en or et ne savent plus où donner de la tête. Mais la tendance peut s'inverser en une semaine et laisser les marchands pensifs, le regard soucieux, à moins qu'ils ne profitent de la trêve pour nettoyer leur rayonnage. Certains bateaux ont un côté home sweet home, avec une petite cabine aux fleurs peintes et de la lessive qui flotte au vent. D'autres ressemblent à des bateaux pirates, avec leurs drapeaux altérés par les intempéries, leurs proues vermoulues, leurs bastingages au bois qui s'écaille et leurs marins qui fixent le quai avec des yeux de braise. L'équipage du Faizé Osmani est en train de manger dans la cabine sur le pont. Les hommes regardent avec curiosité l'occidental qui flâne sur le quai dans la chaleur de midi, avec ses lunettes de soleil et son chapeau. Mais quand je les salue et que je leur demande « Where you go ?», ils me font signe à leur tour et répondent « Iran go ». Sitôt la pause de midi achevée, camions et pick-up chargés de caisses et de cartons reprennent leur incessant va-et-vient. Des grues hissent réfrigérateurs, machines à laver, télévisions... les chaînes stéréo à bord. Quand la nuit tombe, des lampes multicolores s'allument et j'aperçois des silhouettes de matelots qui, torse nu, grimpent par-dessus de grands tas de cartons. Par endroits, la journée de travail est terminée et des hommes accroupis jouent aux cartes.
Extrait du livre Sur les ailes du dragon, voyage entre l'Afrique et la Chine, par l'auteur néerlandaise Liv Joris. Il suffit de quelques jours pour se rendre compte que la notion de hub n'est pas surfaite. Dubaï est au croisement de mondes qui se côtoient de manière habituelle, derrière des écrans de salles des marchés, de grandes banques. Ici, ils vivent ensemble, tournés vers cet objectif commun, le succès rapide. Il suffit également de quelques jours pour oublier la position géographique de Dubaï. Farah Talani, grand reporter et résident aux Émirats Arabes Unis depuis quelques années, nous aide à retrouver quelques notions géographiques, horizontales. Comment est-ce qu'on vit dans un univers aussi bruyant ?
En fait, on s'y fait assez vite parce que on s'aperçoit quand on vit à Dubaï que il y a des constructions tout autour de là où on vit, un peu partout. On ne peut pas échapper aux grues, on ne peut pas échapper aux ouvriers, aux chantiers. Parce que c'est une ville tellement dynamique avec beaucoup de projets en cours. Et donc à un moment donné, on s'y fait. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on quitte par exemple Dubaï pour une semaine ou deux et que l'on revient, on voit de nouvelles grues, de nouveaux ponts, de nouveaux bâtiments en construction, de nouveaux chantiers un peu partout.
Vous pouvez nous décrire le quartier dans lequel on se trouve ?
Là, on est au DIFC, donc c'est le Dubai International Financial Center. C'est l'équivalent de la Défense en France, le pôle économique et financier de Dubaï, qui existe depuis une dizaine d'années, où la plupart des financiers, des banquiers, des avocats se sont regroupés. C'est une free zone, donc une zone libre, où les règles sont différentes. Vous pouvez peut-être le remarquer, mais... ici, il y a énormément d'étrangers, énormément d'Européens, d'Américains, de Français, de Britanniques, habillés à l'européenne. On est un petit peu dans une bulle, ici, dans Dubaï. C'est l'endroit où l'argent est géré, coule à flot, et redistribué pour différents projets, en fait.
Alors, vous n'êtes pas venu à Dubaï pour l'argent, mais pour Dubaï en tant que... lieu de connexion entre les différentes régions auxquelles vous intéressez ?
Oui, c'est exactement ça. Moi, je travaille beaucoup sur le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Et Dubaï est un hub non seulement international, mais pour la région, c'est parfait parce que l'aéroport est à 10 minutes de chez moi. On est à 2 heures de l'Iran, on est à 3 heures du Liban, à 2 heures de l'Irak, 2 heures de l'Afghanistan. Enfin, tous les pays qui, moi, m'intéressent dans la région sont tout autour. Et Dubaï est une plateforme dans la région qui est plutôt stable. Il n'y a pas de problème de sécurité, on y vit bien. Et on rencontre des gens du monde entier. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être, je pense, si on veut travailler sur le Moyen-Orient et sur l'Asie.
Vous travaillez principalement sur des zones de conflit, des zones de guerre. Est-ce qu'ici, c'est une sorte de havre on ne ressent pas ces conflits ?
C'est exactement ça. En fait, c'est un havre de paix dans une zone, dans une région à feu et à sang. Alors, on ne ressent pas les conflits, mais en même temps, on rencontre beaucoup de gens qui viennent de ces pays en conflit. Donc, il y a énormément de Syriens, énormément d'Irakiens, il y a des Afghans, des Pakistanais, des Palestiniens. Et donc, c'est une espèce d'endroit où les répercussions des pays voisins en guerre se ressentent quelque part, en fait. On peut avoir affaire à des gens qui viennent de ces pays en guerre. Donc, c'est très intéressant. Parce qu'on est journaliste, par exemple, pour avoir des infos, pour rencontrer des gens sans vraiment se déplacer, pour avoir des relais. Par exemple, moi j'étais en Afghanistan il y a quelques mois, j'ai rencontré pas mal de Pashtous ici, donc l'ethnie principale en Afghanistan, avec pas mal de contacts que j'ai pu obtenir, avec des familles que j'ai pu voir, de ces gens qui sont seuls souvent à Dubaï. Donc oui, c'est le meilleur, je pense, le meilleur endroit, à la fois pour y vivre, je parle de la région, et pour travailler.
Est-ce que vous avez des confrères émiratis qui vont dans ces mêmes régions ? Est-ce que les Émirats encouragent aussi le journalisme d'investigation, le journalisme de guerre, le grand reportage ?
Honnêtement, très peu. Très peu. Il y a pas mal de journalistes émiratis, mais très... alors ça, c'est peut-être pas étonnant, mais très porté sur le business, sur le journalisme économique. Les journaux locaux sont très intéressants sur le plan économique, un peu moins sur le plan politique. Et sur le plan de la géopolitique, en fait. C'est assez sensible. Et le gouvernement ici, je pense, n'encourage pas vraiment à aller dans ces pays-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, les Émiratis sont connus pour avoir de l'argent. Donc, pour être une proie pour les kidnappeurs de la région, que ce soit en Irak, en Syrie ou ailleurs. Et les Émirats sont impliqués maintenant dans la géopolitique de la région. Et donc, ils ne sont plus neutres. Ce n'est plus la Suisse du Moyen-Orient, mais un pays qui est en guerre. On ne le ressent pas vraiment quand on est à Dubaï, mais c'est un pays en guerre qui est impliqué au Yémen, qui bombarde en Syrie, en Irak, et donc c'est assez sensible.
Quand on voit tous ces drapeaux partout dans la rue, c'est en relation notamment avec ces conflits ?
Oui, en fait, les drapeaux étaient déjà là, mais c'est vrai que les conflits récents et le fait que le pays soit en guerre a intensifié ce patriotisme que l'on ressent. De toute façon, quand on se balade à Dubaï, il suffit de se balader, que ce soit dans ce quartier économique ou à Dera, qui est le vieux Dubaï, on voit des drapeaux partout. Il suffit de parler aux Émiratis pour comprendre qu'ils sont très très fiers de leur pays, de leur origine, du rôle maintenant qu'ils jouent sur le plan économique, politique, dans la région. Et moi, je peux vous dire oui, que je ressens là, depuis quelques mois une montée en fait, du patriotisme. Et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ici, en fait. Parce que les étrangers qui viennent bosser ici, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques, brandissent des drapeaux aussi. Ils sont assez fiers de bosser ici. Alors peut-être qu'ils s'adaptent un petit peu aussi à l'ambiance patriotique, mais il n'y a pas de rejet, en fait. Tout le monde est content de travailler ici. Même ceux dont on parle souvent dans les médias occidentaux, qui sont les ouvriers, qui sont les travailleurs pakistanais ou indiens, ou du Bangladesh, qui ont certes des conditions de vie assez compliquées, mais qui s'améliorent. Il faut voir le bon côté des choses. Il y a 10 ans, ils vivaient dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. C'est pas encore l'idéal, évidemment. Mais on ne trouve plus de chambres avec 40 ouvriers qui se partagent 20 mètres carrés. Quoi. Ça s'est terminé.
Ferhat, quand on voyage dans la région avec un domicile sur son passeport, un domicile à Dubaï, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça renvoie comme image ?
Bah, il y a ce fantasme en fait sur Dubaï. On pose souvent des questions sur tous les superlatifs en fait qui sont liés à Dubaï, sur la plus haute tour du monde, les voitures de luxe, l'argent qui coule à flot. C'est vrai qu'ici en fait tous les projets les plus fous sont réalisables. Et c'est quelque part un peu le credo du gouvernement qui, à chaque fois, mentionne le plus grand chantier, la plus grande projection, la plus grande tour du monde. Ils ont une espèce de, comment dirais-je, d'objectif qui est très clair, qui est d'être le pays où il y a les choses les plus folles. Donc là, ils prévoient, par exemple, de construire le plus grand centre commercial du monde.
Ferhat, on vous suit vers un magazine, Brown Book. Qu'est-ce qui représente ici, Brown Book ?
C'est le magazine culturel dont tout le monde parle ici, qui appartient à la famille Aptour, qui est une des 10 grandes familles à Dubaï impliquées dans différents business. Et cette famille Aptour est très impliquée dans la culture. Et donc, ils ont créé ce magazine il y a à peu près 3 ans, il me semble. Et ils organisent également pas mal d'événements culturels, des expositions liées à Dubaï ou à d'autres thématiques.
Qu'est-ce que ça veut dire à Dubaï être impliqué dans la culture ?
Alors ça veut dire 2 choses à mon sens. C'est d'abord de manière très pragmatique comprendre qu'il y a une niche, qu'il y a un marché à prendre. Tout est vu ici à travers la matrice du business. Et donc il y a un engouement hallucinant pour la culture. Et donc les grandes familles qui ont des grands groupes dans les business investissent là-dedans. Ça c'est la première raison. Puis la deuxième c'est que Dubaï est un pays très récent, qui a été créé en 1971. Et donc, quelque part, ils sont à la recherche de leur propre culture et par la même occasion, à la recherche de la culture des autres. Et donc, ils sont très ouverts à cela. Il y a des musées un peu partout qui fleurissent. Il y a énormément d'événements culturels tout au long de l'année. Et quelque part, je dirais même qu'ils achètent un petit peu la culture, quoi. Et qu'ils... En même temps, on vit énormément de témoigner de leur propre culture. Ils en sont très fiers. Et ils aiment beaucoup parler de leur passé et parler du futur en même temps et de raconter comment, en quelques décennies, ils sont arrivés où ils en sont aujourd'hui. En fait.
Donc Brown Book fait partie de cette stratégie.
qui font quelque part le raccord entre le passé des pêcheurs de perles, qui était la principale économie à Dubaï, et puis aujourd'hui, les investissements de toutes sortes.
Je m'appelle Ahmed Ben Chebib. Je suis l'un des deux fondateurs d'une organisation qui se nomme Cultural Engineering. Notre but est l'amélioration de l'identité dans le Golfe.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette organisation que vous dirigez? Qu'est-ce qu'elle représente?
So the organization in itself is known for a magazine called Brown Book, which we sell.
Notre organisation produit le magazine Brown Book, que nous vendons dans plus de 50 villes à travers le monde. L'idée de Brown Book est comment réintroduire le Moyen-Orient et d'une manière contemporaine. Par exemple, mettre en avant des musiciens de jazz en Afrique du Nord, ou encore les restaurants au Levant, les artistes dans le Golfe, ou bien les pratiques en urbanisme et en architecture dans la région. Nous avons trois objectifs principaux. Le premier, c'est la recherche. Nous créons donc Brown Book et nous avons collaboré avec la galerie Serpentine à Londres. Nous avons travaillé sur un livre avec Rem Koolhaas et nous produisons des livres sur l'identité culturelle du Moyen-Orient. Notre second objectif, c'est l'éducation. Ce que nous faisons, c'est d'éduquer via des expositions. Par exemple, Ray et Charles Eames ont fait cela de manière admirable dans les années 60 et 70. Donc nous suivons leur philosophie et nous avons fait une exposition à la Milan Expo et nous continuons à faire des expositions. La troisième chose que nous faisons, c'est de l'urbanisme, des interventions urbaines. Par exemple, le pavillon Downtown, qui était l'ancien espace de vente pour Burj Khalifa, nous y avons installé un espace d'art non commercial. Au même moment, nous avons créé un endroit qui se nomme Archives, à Safa Park, où nous avons réintroduit l'idée d'espace public dans la ville. Donc voilà nos trois disciplines. Toute l'idée, c'est que... Pourquoi est-ce que je porte ma gandoura, mon habit traditionnel? La modernisation dans le Golfe est arrivée à un moment vraiment latent. Personne ne voulait vraiment occuper cet endroit. Aucune ressource n'y était disponible. Mais depuis les années 60, il y a eu un incroyable boom et nous avons dû rattraper le monde très vite. Mais nous conservons toujours nos valeurs. Nous vivons d'une manière très traditionnelle, mais dans un style très contemporain. Le passé est très présent. Au même moment, le monde bascule, il change. Des gens comme Manuel Castells ou l'urbaniste et penseur Henri Lefebvre à Paris ont vraiment réfléchi à comment les villes changent. En particulier, Dubaï est passé d'une ville très simple à l'une des capitales des villes les plus compliquées, où l'argent, les informations, les talents affluent. Relancée par Emirates Airlines, la ville a une dynamique incroyable et elle devient la capitale de la région, le New York du Moyen-Orient.
Pourquoi est-ce que vous évoquez le terme « réintroduire la culture », « réintroduire le niveau culturel » ?
The Middle East in general has an air of orientalism.
Le Moyen-Orient en général a connu une période d'orientalisme. Et cet orientalisme est imposé à la région. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, nous avons nous-mêmes renforcé cet orientalisme. Ce n'est plus imposé. Nous vivons nos traditions. Le désert de Dubaï, la danse du ventre, peu importe. Avec tous ces symboles, nous nous sommes pris au piège nous-mêmes. En même temps, ce que nous devons faire, c'est réorientaliser dans le bon sens, revenir à nos racines, en prendre le meilleur et les réintroduire d'une manière moderne. C'est une base intéressante de travail.
Quelque chose qui est assez étonnant, c'est que depuis qu'on rencontre des interlocuteurs et des acteurs culturels à Dubaï, le business est forcément lié. Et quand on parle de revues, quand on parle de revues de cette qualité, c'est anti-business au possible.
Les gens ont faim de technologie et de contenu. Notre travail, c'est de fournir ce contenu. C'est notre travail de créer le modèle. Mais si nous perdons notre identité, nous échouerons. Nous ne réussirons pas en tant qu'organisation à changer l'identité. Mais ce que nous allons faire, c'est planter les racines de la conversation pour les prochaines générations, de telle manière qu'ils prennent leur identité et qu'ils la fassent avancer d'une manière contemporaine. Par exemple, si vous regardez la mode japonaise qui existe aujourd'hui, vous voyez quelqu'un et vous vous dites, il a l'air très japonais. Vous pouvez voir un immeuble et vous dire qu'il ressemble à un immeuble japonais. Et pourquoi cela existe-t-il? Parce que vous avez des gens comme Reiko Kubo, Issei Miyake, Yoichi Yamamoto, Tadao Ando, qui ont été capables de traduire la lumière et l'ombre, l'espace entre les matières et les corps, d'une manière contemporaine. Les Scandinaves l'ont aussi fait d'une manière très contemporaine. Et cela a pris des générations. Notre travail, c'est de continuer à documenter la région autant que nous le pouvons et de planter des graines pour cela.
Dubaï Ville Monde, d'autres frontières. Avec Elie Domit, galerie Swing, Stéphane Lagoutte, photographe, Antoine Calife, programmateur cinéma, Ferhat Alani, grand reporter, Ahmed Bin Chabib, éditeur. Merci à Pierre Lecor, Yften Benhamza, Bernard Frontero, Virginie Lenorgan, agence TQC, Visite Dubaï, Dubaï International Film Festival. Les extraits du livre « Sur les ailes du dragon, voyage entre l'Afrique et la Chine » de Liv Joris, traduit par Arlette Ounanian, sont lus par Delphine Salter. Doublage Antoine Beauchamp, coordination Catherine Libert, prise de son Pierre Quintard, mixage Valérie Lavallard, réalisation Rafik Zénine, un documentaire d'Arnaud Contreras.
Retrouvez les voyages Ville-Monde et toutes leurs escales sur le tout nouveau site franceculture.fr. Dimanche prochain à 15h, vous retrouverez Dubaï. C'est le temps du carême et vous écoutez France Culture.